Chapitre 5. 30 jours avant la fin du monde. Première partie. Chapitre 5. 30 jours avant la fin du monde.
Mon pauvre Fume-Sec, dit Dumbledore en caressant délicatement les plumes tièdes et frémissantes de son phénix. Toi non plus, tu n'apprécies pas leur présence. Le directeur de Poudlard était assis dans son vaste bureau, vêtu d'un manteau brodé et chaussé de ses habituels souliers à boucles. Il était seul et s'autorisait donc à se montrer préoccupé. Derrière ses lunettes en demi-lune, ses yeux bleus étaient assombris par l'inquiétude et un pli soucieux barrait son front. Autour de lui, tout était à sa place. Les deux bibliothèques remplies d'ouvrages passionnants, les étranges instruments argentés qui vibraient sur les étagères, les nombreux directeurs de Poudlard qui sommeillaient dans leurs portraits, la pancine qui se trouvait dans un coin de la pièce. Un an et demi avait passé depuis la longue discussion que Régulus et Narcissa avaient eue au pied du Flavirier argenté. Étalés sur le bureau de Dumbledore, plusieurs articles de la Gazette du Sorcier rapportaient des faits récents et donnaient une idée du tournant tragique que prenait la guerre. Certains se désespéraient des assassinats, agressions et disparitions mystérieuses qui se succédaient sans répit. D'autres s'alarmaient du fait que de nombreux détraqueurs se soient affranchis de l'autorité du ministère pour se ranger aux côtés de Voldemort. Cette dernière nouvelle y était pour beaucoup dans l'abattement que ressentait Dumbledore et c'était aussi la raison pour laquelle Fume-Sec frissonnait sous ses doigts. Derrière lui, la fenêtre de son bureau était embuée par une brume glaciale. Depuis quelques jours, l'école était encerclée par certains de ses détraqueurs dissidents. Attirés par les nombreuses proies que représentaient les élèves, ces sinistres créatures se pressaient contre l'enceinte de sortilèges protecteurs qui entourait le château de Poudlard. Et même s'ils ne pouvaient pas atteindre directement les élèves, ils répandaient une brume glaciale sur le domaine, empêchaient les élèves de se rendre à Préaulard et accentuaient considérablement la morosité ambiante. À côté des articles, une lettre d'Alastor Maugrey rapportait à Dumbledore les déboires du ministère et du bureau des Aurores. Les enquêtes insolubles, les fausses pistes, les perquisitions ratées, les dossiers confidentiels éventés, la brutalité de Croupton et ses décisions impulsives qui risquaient de mettre en péril de nombreux sorciers. Après les avoir parcourus du regard, Dumbledore poussa un long soupir. 2 ans et demi s'étaient écoulés depuis la destruction du pensionnat Weasley, et les sorciers avaient presque oublié ce massacre tant les événements tragiques s'étaient succédés depuis. Évidemment, l'école de Poudlard n'était pas épargnée par la guerre. Les élèves étaient hantés en permanence par la crainte que les Mangemorts s'attaquent à leur famille ou à leurs amis nés moldus pendant les vacances. Beaucoup d'élèves voyaient leurs nuits peuplées de cauchemars, et ceux que Dumbledore croisait dans les couloirs marchaient rapidement et silencieusement, la tête basse, le teint pâle. Pire encore, et c'était sans doute ce qui affectait le plus Dumbledore, les forces du mal gagnaient en puissance au sein même de l'école. De plus en plus d'élèves de Serpentard s'étaient appropriés les idées de Voldemort et de ses partisans, multipliant ainsi les propos insultants à l'égard des nés moldus et intimidant les élèves concernés, ce qui contribuait grandement à l'ambiance pesante qui régnait à Poudlard.
« Comment en est-on arrivé là, mon pauvre Fume-Sec ? » s'interrogea Dumbledore.
« Comment ces mensonges et ces fantasmes de domination peuvent-ils contaminer à ce point les esprits de nos élèves ?» Il avait tourné et retourné ces questions dans sa tête d'innombrables fois, sans y trouver de réponse satisfaisante. Désireux de retrouver un peu d'optimisme, Dumbledore fouilla dans les articles et en extirpa l'un de ceux qui étaient susceptibles de le réconforter. Des milliers de moldus épargnés, nos mystérieux agents doubles courent toujours, titrait l'article, qui était déjà vieux de quelques mois. Après l'évacuation d'un pont et d'une école avant des attaques massives de Mangemorts, cette fois-ci c'était un stade entier qui avait été évacué au cours d'un concert à la demande d'une célèbre chanteuse moldue qui avait exigé de poursuivre le concert dans la forêt la plus proche. Le stade avait été attaqué quelques minutes à peine après avoir été déserté par les spectateurs perplexes et, à nouveau, la chanteuse moldue avait été retrouvée chez elle, dormant paisiblement, délestée d'une mèche de cheveux et sans aucun souvenir des événements. Dumbledore se souvint de la manière dont cette nouvelle avait diverti les élèves
et de leurs hypothèses farfelues concernant l'identité de ceux qui venaient de défier impunément Voldemort pour la troisième fois.
« Espérons que jamais personne ne vous attrape, » soupira Dumbledore en s'adressant à ses mystérieux sauveteurs.
À côté de lui, Fumsec émit un roucoulement approbateur et prit dans son bec un autre article porteur d'espoir dont Dumbledore se saisit avec un sourire reconnaissant. Lily Evans et James Potter. Mais qui sont ces deux préfets en chef, engagés et enthousiastes ? Pouvait-on lire en haut de l'article.
Dumbledore ne put s'empêcher de le relire encore une fois. Il ne se lassait pas de refaire l'inventaire des innombrables initiatives qu'avaient pris James et Lily au cours de l'année pour faire de l'école un véritable lieu de protection et de résistance. Tous les élèves avaient bénéficié d'un apprentissage renforcé des techniques magiques de défense et de secours. Un bureau d'entraide avait été ouvert pour les élèves qui avaient besoin de soutien. Les tables, les sols et les murs du château avaient été intégralement protégés des graffitis insultants qui y florissaient depuis le début de la guerre. Des réunions avaient été organisées sur la formation d'Aurore, et les élèves étaient de plus en plus nombreux à vouloir s'y engager. Avec amusement, Dumbledore repensa à la discussion animée qu'il avait eue un an plus tôt avec les autres professeurs, à la fin de l'année scolaire précédente, lorsqu'il avait fallu élire les deux futurs préfets en chef. Sans surprise, Lily avait fait l'unanimité. En revanche, Dumbledore avait eu bien plus de mal à argumenter la candidature de James, qui, malgré une légère amélioration de son comportement, souffrait encore de sa réputation de fauteur de troubles. Malgré la réticence des professeurs, Dumbledore avait maintenu son choix. Avec ses talents de joueur de Quidditch et sa bonne humeur permanente, James était l'un des élèves les plus appréciés de l'école. Il avait toujours tout fait pour protéger les Némoldus des discriminations et des violences dont ils étaient menacés, et Dumbledore savait qu'il était le mieux placé pour fédérer les élèves autour de cette cause. Et dès le début de l'année, les professeurs de Poudlard avaient été obligés d'admettre qu'ils avaient eu tort de douter de James. Cette marque de confiance avait provoqué chez lui une véritable prise de conscience, et son comportement avait changé de manière spectaculaire. Après un début d'année un peu tumultueux aux côtés de Lily, il avait réussi à se comporter en adulte et à trouver un terrain d'entente avec elle pour collaborer. Contre toute attente, il avait été de plus en plus fréquent de les voir discuter ensemble, d'abord avec sérieux et distance, puis avec une complicité de plus en plus évidente. Perdu dans ses pensées, Dumbledore souriait, heureux d'avoir vu juste sur ce point-là. Il se remémora avec joie l'enthousiasme avec lequel James et Lily avaient investi leur rôle de préfets en chef, épaulés par leurs proches amis, Marlène pour Lily, et bien sûr Peter, Remus et enfin Sirius. Mais en pensant à Sirius, le regard de Dumbledore s'assombrit de nouveau. Certes, le jeune homme avait aidé James et Lily tout au long de l'année, et son engagement dans la lutte contre Voldemort ne faisait aucun doute. Mais Dumbledore avait espéré de lui autre chose, quelque chose qu'il était le seul à pouvoir accomplir, et qui ne s'était jamais produit. Machinalement, Dumbledore se leva et marcha vers la pancine qui s'illumina à son approche. Il parcourut du regard les différents flacons remplis de souvenirs qui s'alignaient devant lui, trouva rapidement celui qui l'intéressait et le versa dans le récipient métallique gravé de runes. Avant de se plonger dans la pancine, Dumbledore prit quelques instants pour se concentrer intensément. Dans un mois, Sirius aurait terminé sa 7e année et quitterait Poudlard pour toujours. S'il y avait encore quelque chose à lui dire pour le faire changer d'avis, c'était le moment de trouver quoi. Après, il serait trop tard. Dumbledore hocha la tête, déterminé. Puis il se pencha en avant et plongea dans son propre souvenir. La scène avait eu lieu un an plus tôt, dans son bureau, quelques jours après que Dumbledore ait demandé à James d'être le prochain préfet en chef. Dumbledore était installé dans son fauteuil confortable et Sirius était assis sur la chaise qui lui faisait face. Autour d'eux, les instruments argentés bourdonnaient sur leurs étagères et les directeurs de Poudlard sommeillaient dans leurs tableaux, sauf Phineas Nigelius Black, dont le portrait était soigneusement retourné. Quant à Fumsec, il se reposait sur son perchoir tout en suivant Sirius du regard. « Tu sais peut-être de quoi je souhaite te parler, » disait Dumbledore.
Sirius regardait autour de lui, intimidé, visiblement peu habitué à être reçu sans ses trois amis.
« Non, pas du tout. » Je pense que cette conversation sera nettement moins agréable que celle que j'ai eue avec James il y a quelques jours,
revint Dumbledore.
Il pencha légèrement la tête et attendit quelques secondes que Sirius émette une supposition. Mais celle-ci ne vint pas.
« Dis-moi, Sirius, as-tu observé ton frère ces temps-ci ?»
À l'époque, Dumbledore avait été surpris par la réaction provoquée par cette simple question. Sirius s'était brusquement raidi et s'était reculé sur sa chaise, comme si Dumbledore avait dit quelque chose de répugnant.
« Mon frère ? » grimaça-t-il. « Vous voulez dire Régulus ? » ?»«
Il me semble que tu n'en as qu'un. »
Sirius resta interdit, avec l'air de penser qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie.
« Je ne l'observe pas, » dit-il finalement sans parvenir à masquer son inconfort.
« Plusieurs professeurs s'inquiètent à son sujet, » poursuivit Dumbledore, toujours calme.
« Il semble préoccupé. »
« Qui ne l'est pas ces temps-ci ? »
« Tu as raison, bien sûr, et je ne m'inquiéterais pas outre mesure s'il n'y avait pas ces étranges crises douloureuses au niveau de son bras gauche qui surviennent de temps à autre et l'obligent à sortir de classe. »
Dumbledore laissa sa phrase en suspens, incitant Sirius à dire quelque chose.
« De mon point de vue, il ne semble pas aller si mal que ça, » marmonna Sirius avec réticence.
« Il a toujours été bizarre, vous savez. Mes parents l'ont tellement couvé qu'il n'a jamais réussi à se faire des amis. Mais au contraire, cette année, les serpentards lui tournent autour comme des mouches autour d'un steak. »
« Tu l'as donc remarqué toi aussi ?» nota Dumbledore avec amusement.
Sirius l'ignora.
« Honnêtement, professeur, quand je le vois se pavaner avec tous ces faillots du club de Slug, j'ai du mal à le plaindre. Slughorn a l'air de l'adorer. Il n'arrête pas de raconter partout que c'est l'élève le plus brillant qu'il ait jamais vu. »
« Tu es bien renseigné ?» sourit à nouveau Dumbledore.
« En effet, je dois dire que ses résultats sont absolument stupéfiants. C'est à se demander s'il ne suit pas d'autres enseignements que ceux prodigués par l'école de Poudlard. »
Sirius fronça les sourcils, visiblement agacé par ce sous-entendu.
« Je ne comprends pas ce que vous attendez de moi, professeur, » dit-il sèchement.
« Rien de bien compliqué, à vrai dire. » « Je me demandais simplement si tu avais pu avoir écho de certaines choses le concernant. »«
Vous pensez que mon petit frère est un mange-mort, c'est ça ?»«
Disons que, parmi les élèves de Poudlard, Régulus ferait une cible parfaite pour Voldemort et ses partisans. Tu ne crois pas ?»
Sirius haussa les épaules. Il se tourna vers les vitraux sur lesquels crépitait la pluie et son regard se perdit dans le lointain.
« Sans doute, » murmura-t-il. « Mais… »
« Je suis désolé, professeur. Je ne sais rien de tout cela. Même lorsque j'habitais encore chez moi, personne ne me disait rien. »
« Ah !» dit Dumbledore. « Je me demandais tout de même si cela n'avait pas un rapport avec la manière dont tu étais revenu sur tes pas pour regagner le champ de bataille lors de l'attaque du pensionnat Wimbledon. »
« Aucun, » soutint Sirius. Il avait réagi un peu trop vivement pour quelqu'un qui disait la vérité. Dumbledore continuait de l'observer, dubitatif.
« Si je pouvais le dénoncer, je le ferais, » appuya Sirius.
« Et je ne serais pas étonné s'il en était devenu un. Mais je ne sais rien, et je ne veux surtout pas m'en mêler. »
« Oui, j'imagine, » dit doucement Dumbledore.
« Si je peux me permettre, c'est plutôt à mes parents que vous devriez parler de tout cela, » fit remarquer Sirius, dans l'espoir d'écourter la discussion.
C'est ce que j'ai voulu faire dans un premier temps. Mais ils n'ont pas daigné répondre à mes sollicitations. J'ai tenté de leur rendre visite comme je le fais parfois avec d'autres familles. Mais tu es bien placé pour savoir que votre maison est protégée par de nombreux sortilèges.
De façon presque imperceptible, Sirius frissonna de dégoût à l'évocation de son ancien lieu de vie.
« Évidemment, » soupira-t-il. « Où avais-je la tête ? Mes parents vous détestent. » Ils disent que vous êtes le pire directeur que Poudlard ait jamais eu. Et ils ne seraient pas mécontents que Régulus devienne un mange-mort, si c'est ce que vous vouliez savoir.
« Je te remercie pour toutes ces informations, » sourit Dumbledore.
« Cela explique leur silence. Et cela explique également pourquoi je me tourne vers toi, Sirius.
Je ne sais rien de plus, » répéta Sirius avec impatience. Il regarda en direction de la porte de sortie, mais Dumbledore n'avait pas l'intention de s'arrêter là.
« Il y a autre chose que j'aimerais te demander, » dit-il encore plus doucement. Quelque chose de plus délicat. Dumbledore marqua une pause, craignant que Sirius ne se mette en colère. Tu sais, Sirius, malgré les apparences, j'ai la conviction que Régulus se sent très seul ces temps-ci. Et que voulez-vous que j'y fasse ? Dumbledore inclina légèrement la tête pour regarder Sirius par-dessus ses lunettes en demi-lune. « Je pense que tu pourrais y remédier, » dit-il. « Je pense que tu pourrais éventuellement aller lui parler. »«
Je vous demande pardon ?»«
Si tu en avais l'envie et le courage, bien sûr. »«
Le courage ?» s'indigna Sirius. « Tout le monde sait très bien que nous ne nous entendons pas. Pourquoi n'allez-vous pas lui parler vous-même ?»
Oh, je l'ai reçu plusieurs fois dans ce bureau pour lui proposer mon aide. Mais il m'a assuré qu'il n'avait jamais eu l'intention de rejoindre les Mangemorts, ce dont je doute très fortement. J'ai tenté de requérir l'aide du professeur Slughorn, mais ce dernier refuse catégoriquement de questionner ses élèves favoris sur leurs ambitions concernant la guerre. Quant aux amis de ton frère, je dois avouer qu'ils ne m'inspirent pas vraiment confiance. Sirius resta silencieux. Il semblait stupéfait par le culot de Dumbledore. « Êtes-vous en froid à ce point ?» insista le directeur. « Je comprendrais que tu en veuilles à tes parents, mais ton frère est encore jeune. Pour lui, il n'est peut-être pas trop tard. Et toi qui as eu la force de te détourner de tout ça, je pensais que tu pourrais lui montrer le chemin. » Le compliment de Dumbledore n'eut aucun effet sur Sirius. Au contraire, il se raidit encore davantage. « Je n'ai rien à lui dire, » déclara-t-il. « Je ne fais plus partie de cette famille. » Et je ne veux plus jamais avoir affaire à eux. Je ne peux pas aider Régulus. Et de toute manière, s'il est bel et bien devenu un mange-mort, c'est dommage pour lui. Mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Une ombre de déception passa dans les yeux bleus de Dumbledore. « Je peux partir maintenant ?» demanda Sirius avec une agressivité mal contenue. « Réfléchis-y, Sirius. Je ne peux pas t'y obliger, bien sûr, mais... je ne pense pas que Régulus te repousserait.
Vous n'en savez rien !» rétorqua Sirius. « Rien du tout. Régulus sait parfaitement ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il est sans doute ravi d'être débarrassé de moi. Cela fait de lui l'héritier de notre famille. Il ne pouvait pas rêver mieux, je vous assure. »
« C'est vraiment ce que tu crois ?» Sirius secoua la tête exaspérée.
« J'avoue que je ne vous comprends pas, professeur. Je pensais que vous me souteniez face à mes parents. »
« C'est le cas.
Il y a quelques jours, vous demandiez à James de rester à Poudlard pour organiser la résistance. Et maintenant, vous voulez que j'aille pactiser avec l'ennemi ?»«
Dans l'espoir d'en faire un ami ?» précisa Dumbledore.
« Cela n'arrivera pas, » décréta Sirius. « Cela n'arrivera jamais. »
« Tu sais, Sirius, parfois, faire partie de la résistance implique de mettre sa fierté de côté. » Sirius serra les poings. La colère qui frémissait en lui venait de se mettre à bouillir. « Pensez-y, » conclut Dumbledore, qui avait senti que Sirius était sur le point d'exploser. « Bien, j'ai déjà trop abusé de ton temps précieux. Je te remercie d'avoir accepté de discuter de tout cela, Sirius. Je te laisse rejoindre tes amis. » Dumbledore fit un geste de la main et la porte du bureau s'ouvrit enfin. Sirius se leva comme un ressort et sortit en claquant violemment la porte derrière lui. Puis Dumbledore se redressa, quittant le domaine des souvenirs pour rejoindre celui de la réalité. Pendant de longues minutes, il resta debout près de la pancine, plongé dans une réflexion intense. Évidemment, il ne pouvait pas en vouloir à Sirius d'avoir réagi ainsi. Il aurait été injuste de lui faire le moindre reproche, alors même qu'il s'était détourné de sa famille et de ses idées ignobles avec un courage admirable. Dumbledore aurait simplement aimé que Sirius puisse considérer son frère de manière plus nuancée. Mais la nuance n'avait jamais été le point fort de Sirius, avec toutes les qualités et les défauts que cela impliquait. Dumbledore avait beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y voyait aucune issue. Après cet échange avec Sirius, il avait de nouveau tenté de convaincre Slughorn d'enquêter sur le sujet, mais le professeur de potions avait balayé sa demande d'un revers de la main, l'accusant de se faire des idées et de soupçonner abusivement un élève au comportement irréprochable. Et depuis, la situation n'avait pas évolué d'un pouce. Régulus semblait toujours aussi préoccupé, renfermé et anxieux, et encore davantage à l'approche des vacances, ce qui confortait les soupçons de Dumbledore sur la nature de ses activités extrascolaires. Mais malgré ses nombreuses tentatives, personne n'était parvenu à briser le mur de silence et de solitude qui entourait le jeune garçon. Dumbledore n'arrivait pas à se résoudre à abandonner, et la situation était d'autant plus frustrante que le dilemme intérieur de Régulus était absolument flagrant. Contrairement à d'autres élèves de Serpentard, Dumbledore sentait qu'il était encore temps de le détourner de cette voie tragique. Il ne pouvait pas admettre qu'il avait définitivement échoué et que par sa faute, l'un des élèves les plus brillants de l'école, si ce n'était le plus brillant, allait tomber aux mains des Mangemorts, sans qu'il puisse faire quoi que ce soit pour l'en empêcher. Fumsec le tira de ses sombres pensées en chantant quelques notes mélodieuses, anormalement enthousiastes. Dumbledore se retourna et constata que son phénix s'était perché sur le rebord de la fenêtre de son bureau et regardait au dehors, où brillait une puissante lueur argentée. Le directeur s'approcha, intrigué. Une fois près de la fenêtre, il plissa les yeux pour distinguer l'origine de cette clarté qui inondait le domaine de Poudlard, et lorsqu'il comprit de quoi il s'agissait, il oublia pendant quelques instants tout ce qui le tourmentait. « Décidément, mes élèves me surprendront toujours », dit-il avec un sourire malicieux. Par un hasard étrange, au moment où Dumbledore se remémorait cette entrevue houleuse, Sirius rêvait justement de Régulus. Il était profondément endormi, affalé sur son lit, la joue écrasée sur son oreiller. Son dos se soulevait avec régularité et ses cils tressaillaient de temps à autre. Autour de lui, la chambre qu'il partageait avec ses trois meilleurs amis était envahie par un désordre indescriptible, composé de vêtements froissés, de parchemins tachés et d'emballages de confiserie de chez Onedux. Au pied du lit de Sirius, son sac était ouvert, laissant échapper quelques grimoires maltraités et un parchemin vierge anormalement soigné, la carte du maraudeur. Il s'était assoupi avant l'heure du dîner, éreinté. Depuis que les détraqueurs avaient encerclé le château, ses nuits étaient sans cesse interrompues par des cauchemars à propos de sa famille, l'empêchant ainsi de se reposer. En l'occurrence, il rêvait de quelque chose qui avait déjà eu lieu environ un an auparavant, à peine quelques jours après sa discussion particulièrement désagréable avec Dumbledore. Les mois qui avaient passé n'avaient rien altéré de son souvenir, et celui-ci était si vif que tous les détails lui étaient restés en mémoire. Tout ce qu'il avait observé, entendu, jusqu'à la moindre pensée qu'il avait traversée. Et, sans doute à cause des détraqueurs qui rôdaient autour du château, il avait l'impression saisissante de revivre la scène comme pour la première fois. Il faisait nuit. Sirius et Régulus se trouvaient tous les deux au bord du lac noir, sous une pluie battante. Régulus regardait derrière son épaule pour s'assurer qu'il était seul, sans voir que son grand frère se trouvait juste derrière lui, caché sous la cape d'invisibilité de James. Sirius était si proche qu'il aurait pu le toucher, et son cœur battait si fort qu'il se demandait par quel miracle Régulus ne l'entendait pas. Sans imaginer une seule seconde qu'il était ainsi épié, Régulus leva sa baguette et traça autour d'eux un large cercle qui les masquait aux yeux des habitants du château et les isolait de tous les sons qui leur parvenaient de l'extérieur. Puis il s'accroupit, se pencha au-dessus de l'eau et étendit sa main au-dessus de la surface du lac qui devint lisse comme un miroir, comme si la pluie avait subitement cessé d'y tomber. L'espace d'un instant, Sirius se surprit à être vexé de ne pas connaître tous ces sortilèges. Mais ce sentiment fut balayé par la haine indescriptible qui l'envahit lorsqu'il vit un visage familier apparaître juste en dessous de la surface de l'eau, à l'endroit où aurait dû se trouver le reflet de Régulus. « Je t'attendais », dit l'image d'Orion Black avec froideur. Grâce au sortilège soigné de Régulus, le visage et la voix nasillarde de leur père étaient parfaitement nets. Sirius devina qu'il se trouvait au Douzecoire Grimor et était également penché sur un récipient rempli d'eau. « J'ai été retenu », répondit Régulus sur le même ton. « Comment vas-tu ?»« Bien », répondit Régulus, probablement lucide sur le fait que son père n'accordait aucune importance à sa réponse. « L'été approche », fit remarquer Orion. « Tu sais ce que cela signifie ?» Régulus pâlit encore davantage, si c'était possible. « Oui, oui. » « As-tu lu tous les ouvrages que je t'ai envoyés ?»« Je les ai finis la semaine dernière », répondit Régulus, laconique. « C'est bien, c'est bien. C'est pour me demander ça que tu m'as fait venir ici ?»« Non, pas du tout. C'est à cause de Carla Goyle, tu sais, la femme de cet imbécile d'Edgar, la belle-fille de Vera et Fergus. Je sais qui est Carla Goyle, papa. »
Eh bien, voilà. Elle ne cesse de répéter à qui veut l'entendre que tu es de mèche avec Vera. Elle prétend même que tu lui envoies des lettres. Elle en aurait trouvé une en fouillant dans sa chambre. Régulus fronça les sourcils, visiblement contrarié. « Carla fouille les affaires de Vera ?» demanda-t-il, à la fois inquiet et indigné. « Elle n'a pas le droit. » « Évidemment qu'elle en a le droit. Je te signale que Vera est soupçonnée d'avoir assassiné Piscus Crabbe, d'avoir tenté de faire échouer l'attaque du pensionnat Wimbley, et certains l'accusent même d'orchestrer ces mystérieuses évacuations de Moldus avant les attaques des Mangemorts. Si le Seigneur des Ténèbres ne l'a pas encore tuée, c'est parce que les Collinards la protègent. Mais cela ne va pas durer. » Avec un pincement au cœur, Sirius repensa à la grande dame aux vêtements colorés qui rendait régulièrement visite à sa tante Druella lorsque celle-ci était encore en vie. À l'époque, il lui arrivait de guetter sa venue pendant des heures, impatient de voir Créature et sa mère froncer le nez, d'entendre sa maison résonner d'éclats de rire et se remplir des odeurs alléchantes de ses fantastiques recettes de cuisine. « C'est faux !» affirma Régulus. « Vera est de notre côté. Vous ne pouvez pas vous débarrasser d'elle à cause de simples soupçons !» « Alors, ce qu'on dit est vrai ?» siffla Orion. « Tu es en contact avec elle. »« Vera s'est occupée de ma blessure pendant des mois l'année dernière, » protesta Régulus. « Elle m'a rendu visite tous les jours. C'est normal que je prenne de ses nouvelles. Je m'inquiétais justement de ne pas recevoir de réponse. »« Tu as donc été assez idiot pour faire ça ?» cracha Orion. « Bon sang, tu seras bientôt un mange-mort, mon fils. As-tu seulement conscience de ce que cela implique ?» Sous sa cape d'invisibilité gorgée d'eau de pluie, Sirius tressaillit et son cœur repartit au galop. C'était donc vrai. Son frère allait devenir un mange-mort. Il s'en doutait, bien évidemment, mais en entendant son père parler machinalement de cet horrible projet, Sirius fut saisi de nausée. « De quoi lui as-tu parlé ? J'espère que ces lettres ne contiennent rien de compromettant. »« Rien du tout, je t'assure. Je n'ai fait que lui parler de Poudlard et de l'évolution de ma blessure. » « C'est déjà trop !» grogna Orion. « Ne t'avais-je pas demandé de te montrer irréprochable ?»« Je ne recommencerai pas, c'est promis, » capitula Régulus. « Comment va maman ?»« Mal, justement !» répliqua Orion avec colère, comme si Régulus en était responsable. « Tu sais bien, depuis que Sirius est parti, elle est plus en colère que jamais. Et pour arranger le tout, les Malfoy s'évertuent à nous tenir à l'écart de tout ce qu'il se passe au sein des Mangemorts. Tu es donc notre seul espoir de nous sortir de là, ce qui est loin de me rassurer, je l'avoue. Je réussirai, promit aussitôt Régulus. Je ferai le nécessaire pour démentir les accusations de Carla Goyle et pour être à la hauteur de ce que le Seigneur des Ténèbres attend de moi. Vous n'aurez plus à souffrir de tout ça, je vous le promets. Il avait parlé mécaniquement, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Tant mieux. Régulus, j'espère que tu ne m'en veux pas d'être parfois dur avec toi. Je suis fière de tous les progrès que tu as accomplis, mais j'ai parfois le sentiment que tes convictions faiblissent, et je ne voudrais pas décevoir le Seigneur des Ténèbres à nouveau. Mes convictions ne faiblissent pas, affirma Régulus avec fermeté. Au contraire, elles sont plus fortes que jamais. C'est bien, c'est bien. Mon fils, je dois te laisser, j'ai beaucoup à faire. À l'avenir, n'envoie de lettres à personne, à moins de m'avoir demandé la permission auparavant. C'est compris ?
Entendu. Tu embrasses maman pour moi ? Il n'obtint aucune réponse. Le visage d'Orion avait déjà disparu, brouillé par la pluie battante qui tombait à nouveau sur la surface du lac. Les épaules de Régulus s'affaissèrent et il poussa un long soupir. Il ne semblait pas remarquer que sa cape traînait dans la boue, que la pluie détrempait ses cheveux noirs, gouttait dans sa nuque et sur ses joues pâles. Il restait immobile, accroupi, ses yeux gris flottant vers le fond du lac, comme si les réponses à toutes ces questions allaient en émerger. Son assurance s'était évaporée en même temps que le reflet de son père, et il semblait complètement déboussolé. À deux pas de lui, sous sa cape gorgée d'eau glacée, Sirius serrait les dents pour les empêcher de claquer. Il était révolté par tout ce qu'il venait d'entendre, et les paroles de Dumbledore résonnaient en lui, lancinantes. « J'ai la conviction que Régulus se sent très seul ces temps-ci. » À ce moment-là, Sirius fut tenté de retirer la cape d'invisibilité. Pourquoi faire ? Il ne savait pas vraiment. Pour faire peur à son frère ? Pour lui montrer qu'il avait réussi à l'espionner à son insu ? Pour lui crier dessus comme il l'avait fait au pensionnat Wimbley et comme il brûlait de le faire à présent ?
lui hurler que Bellatrix, les Mangemorts, leurs parents, tous ces adultes étaient des monstres qui le manipulaient, qu'il ne fallait pas les écouter. Lui dire autre chose? Mais quoi donc? Il s'efforça d'imaginer la scène à toute vitesse. La surprise d'abord, puis cette expression apeurée et peinée sur le visage de Régulus, si familière, si exaspérante. Sa colère, peut-être. Sirius ne pouvait pas imaginer une seule seconde que Régulus serait heureux de le voir, qu'il aimerait se confier à lui. Que pourrait-il bien se dire? Avaient-ils jamais discuté ensemble? Échangé la moindre parole qui ne soit pas imprégnée de ressentiment et de jalousie? Et d'ailleurs, au nom de quoi le ferait-il? De leur passé commun? De leur ressemblance physique? De leur lien du sang? C'était autant de choses que Sirius maudissait de tout son être et avait toujours voulu voir disparaître. Les poings de Sirius se serraient et se desserraient autour de la cape d'invisibilité, incapable de se résoudre à la retirer. Il n'avait toujours pas pris de décision quand Régulus retira un de ses gants et remonta pensivement la manche de sa veste. C'est là que Sirius la vit. La marque des ténèbres était dessinée sur l'avant-bras de son frère, boursouflée, déformée, hideuse. Régulus l'effleurait du bout des doigts en grimaçant de douleur. En voyant ce symbole et en pensant à tout ce qu'il représentait, en mesurant soudain la profondeur du gouffre qui se trouvait entre son frère et lui, Sirius fut saisi de vertige. « Je ne pense pas que Régulus te repousserait », avait dit Dumbledore. Mais Dumbledore se trompait. Ils seraient tous les deux incapables de surmonter leur rivalité, leur dégoût pour les opinions de l'autre. Non, décidément, Sirius n'était pas la bonne personne pour aider Régulus. Depuis bien trop longtemps, le garçon qui se trouvait là sous ses yeux n'était qu'un inconnu. Tous les deux ne pourraient jamais se comprendre, et Sirius ne pouvait rien faire pour lui. Tout en verrouillant intérieurement toutes ses certitudes, Sirius se détourna silencieusement et s'éloigna dans l'obscurité. Et plus il s'éloignait de son frère, plus il avait l'impression de tomber. Tomber.